Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Larzac et tout de suite, on retrouve le supplément d'agenda.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de supplément d'agenda dans lequel nous allons revenir sur une époque passée, celle de la RDA. À nos côtés pour en discuter, nous accueillons François Bouloc. Bonjour François, sois le bienvenu.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, donc tu es docteur en histoire contemporaine et enseignant au collège Marcel Amar à Millau, après être passé par l'université Toulouse de Jean Jaurès. C'est bien ça ?
Oui, j'ai été aussi enseignant dans le premier degré, directeur de l'école Paul Bert, juste à côté, pendant plusieurs années même. Et après, voilà.
Et donc tu es spécialiste de la Première Guerre mondiale et un des membres fondateurs du CRID 14-18, donc le CRID, on va rappeler ce que c'est le collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre de 14-18, qui a été fondé donc en 2012. Et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que le samedi 14 mars, Nicolas Offenstadt nous fera l'honneur de venir pour présenter son nouvel ouvrage, Histoire globale de la RDA. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et d'évoquer l'ouvrage, pour lequel on est réunis autour de cette table, est-ce que tu peux revenir brièvement sur ton parcours académique et intellectuel et ce qui t'a donné envie de travailler sur le thème de l'histoire ?
Alors, le thème de l'histoire, il me plaît depuis toujours. Je pense que je devais savoir lire depuis quelques mois. J'ai trouvé le livre « Le jour le plus long » dans les armoires de ma grand-mère. Et je l'ai lu sans tout comprendre, mais voilà. Bref, ça me plaît depuis toujours. Et après, j'ai fait des études d'histoire à l'université Toulouse-Mirail à l'époque. Aujourd'hui, c'est Toulouse-Jean Jaurès. Et là-bas, j'ai rencontré un professeur, Rémi Casal, qui est un des plus grands spécialistes encore en activité de la Première Guerre mondiale et spécialement du témoignage populaire dans la Première Guerre mondiale. Et avec lui, j'ai pu travailler jusqu'au bout d'un doctorat qui concernait l'économie de guerre, enfin plus exactement les profiteurs de guerre. Après, j'ai aussi travaillé sur d'autres thèmes annexes sur la Première Guerre mondiale. Et plus généralement après sur l'histoire contemporaine et les guerres dans l'histoire contemporaine. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à être un des multiples cofondateurs du collectif de recherche 14-18 que tu as mentionné juste avant.
Le CRID.
Oui, voilà. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai rencontré aussi Nicolas Offenstadt, dont tu as dit qu'il allait venir très bientôt le samedi 14 mars à Millau. Je l'ai rencontré dans le cadre d'un travail collectif sur le chemin des dames, la grande bataille et les mutineries de 1917. Voilà.
C'est ça, donc Nicolas Offenstadt qui a écrit Histoire globale de la RDA. Donc on précise qu'il est professeur d'histoire contemporaine et d'historiographie à l'université Paris 1 Panthéon La Sorbonne. Et évidemment, il est spécialiste de la Première Guerre mondiale et notamment de la RDA. Et précisons que c'est le troisième livre qu'il écrit, c'est pas le premier, hein, il a déjà écrit deux ouvrages précédemment, toujours sur le thème de la RDA, il continue dans sa lancée. Et ma première question, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'écrire sur la RDA au XXIe siècle ?
Alors ça, Nicolas Offenstadt l'expliquera beaucoup mieux que moi quand il viendra. En fait, lui, il est venu à la RDA par des chemins assez détournés. Hein, c'est juste pour dire aux gens. En fait, il a travaillé vraiment sur des domaines très divers. Parce qu'au départ, c'est un historien médiéviste, spécialiste des questions de paix, en fait, pendant la guerre de 100 ans. Ensuite, il a évolué vers la guerre 14-18, tout en continuant à faire de l'histoire médiévale. Également de l'historiographie, de l'épistémologie, l'histoire des historiens, des écoles historiques, des pratiques de ce travail intellectuel. Et en fait, il a été professeur invité à l'université de Francfort sur l'Oder, donc pas le gros Francfort d'Allemagne de l'Ouest, mais le petit Francfort qui était en ex-RDA, donc, puisque c'était il y a, je ne sais plus, 15 ans, enfin, ou une période à peu près comme celle-là. Et c'est là, en fait, qu'il a commencé à découvrir la RDA et à la découvrir notamment, par les bibliothèques, la littérature, etc., les visites, tout le travail scientifique qui avait pu être fait, mais également par la pratique de l'urbex qu'il a fait de façon très très intensive en, en ex-RDA et qui alimente son travail, du coup qui le rend très original par rapport à plein d'autres travaux qu'on peut trouver sur ce pays si particulier.
C'est vrai qu'il y a énormément de travaux sur le sujet et sur différents sujets qui a trait à l'histoire. Et c'est vrai qu'on reste souvent sur des clichés, des idées reçues. Et est-ce que c'est aussi une manière de rétablir certaines vérités, de rectifier certaines incorrections qui seraient présentes dans l'imaginaire collectif ?
Oui, alors après, sa démarche, elle est vraiment très historienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas là ni pour peindre en noir l'histoire de la RDA, ni pour en faire une légende dorée d'un pays qui aurait été merveilleux, alors que tout le monde dit que ce n'était pas le cas. Donc le fait que ce pays était une dictature policière, ce n'est pas quelque chose qu'il va du tout minorer. Par contre, le fait que l'organisation sociale de ce pays, certains des éléments de la vie des habitants, et également le projet, en tout cas au départ, a pu être perçu positivement par les gens qui, en tout cas une grande partie des gens qui y étaient, c'est sur ça qu'il a travaillé. Et ensuite, il a travaillé sur la disparition de ce pays, puisqu'avec la réunification après la chute du mur de Berlin, le pays est comme, en quelque sorte, on peut dire, avalé par la RFA, hein, l'Allemagne de l'Ouest, qui va en gros vouloir faire disparaître tout ce qui a été la vie des générations qui étaient là depuis d'un pays qui a duré environ une quarantaine d'années, hein, puisque c'est 1949 et la chute du mur c'est 89, donc pendant 40 ans des gens ont vécu là. Et là, c'est très très complexe le rapport de comment la RDA a été intégrée dans la RFA, et c'est vraiment sur ça qu'il travaille, et notamment en allant chercher les traces de la RDA en faisant de l'urbex dans les entreprises abandonnées, etc., etc.
Donc il y a une idée de restituer l'histoire telle qu'elle est en allant sur le terrain. Est-ce que ça fait partie du devoir de mémoire ?
Là, pour le coup, ça serait plutôt le devoir d'histoire, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, il va rétablir au début de son livre une idée très simple, qui est l'idée de la RDA qui aurait juste été une création liée aux négociations après la Seconde Guerre mondiale, les traités de paix, Yalta, etc., la conférence de Yalta, etc., où en gros, Staline se serait taillé la part du lion et aurait en quelque sorte pris un morceau d'Allemagne qui artificiellement serait devenu un pays communiste, etc. En fait, du point de vue des gens qui ont créé la RDA, des Allemands qui ont créé la RDA, il y avait un véritable espoir au départ de créer le vrai pays du socialisme dans la lignée de la pensée de Karl Marx, qui était allemand, et des grandes figures du mouvement socialiste du début du XXe siècle, Rosa Luxembourg, etc. Il y avait vraiment cette idée de « ça y est, nous avons le territoire » pour mettre en œuvre cette idéologie pour laquelle Rosa Luxembourg est morte, de nombreux combattants antifascistes dans l'entre-deux-guerres sont morts aussi. Eh bien voilà, le moment est venu d'un véritable espoir, on va construire ce pays-là. Alors les espoirs ont loin de là pas tous été comblés et réalisés, mais au départ, c'est pas un pays par défaut, c'est un pays avec un vrai espoir pour les gens qui sont dedans. Et ça conditionne pas mal de choses pour la suite, en fait.
Le titre, il est assez évocateur, Histoire globale. Donc on s'imagine qu'il essaye de restituer à la fois temporellement et sur les différents aspects tout ce qui a pu se passer en RDA, de sa création jusqu'à sa disparition par la suite.
Alors, en fait, effectivement, le projet Histoire globale, c'est... En fait, quand on a cette démarche-là, on dit aussi des fois Histoire connectée, c'est-à-dire c'est une histoire qui essaye de mettre en relation tout ce qu'il est possible de mettre en relation à toutes les échelles et à toutes les temporalités. Par exemple, dans son travail, Nicolas Offenstadt part de la vie ordinaire des Allemands de l'Est ordinaires qui travaillent dans des ateliers, des fabriques, des écoles, etc. Comment ils sont logés, leurs enfants sont scolarisés, comment ils ont des loisirs, quelles sont les conditions de travail, quelles sont toutes les organisations collectives de leurs loisirs, de leur... De de leurs conditions de vie en général, de les conditions collectives de logement, etc. Tout est très collectif, hein, forcément. Mais après, à une autre échelle, comment ces gens-là se définissent toujours par rapport à leurs voisins, cousins allemands de l'Ouest, qui, dans une certaine mesure, sont jalousés, parce que le niveau de vie, très vite, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est va se creuser au désavantage de la RDA. On compare toujours les voitures des deux pays, les Trabant de la RDA d'un côté et les Mercedes-Benz de l'Allemagne de l'Ouest de l'autre, et forcément, il ne s'agit pas de la même chose. Mais en même temps, il y a aussi l'idée en RDA de bâtir le pays du socialisme, un pays où on est en dehors de l'impérialisme américain, un pays où on est en dehors du passé nazi, puisque c'est un pays qui se revendique directement de l'héritage antifasciste, et on sait que la dénazification en RFA, elle a été faite de façon assez superficielle, on va dire, après les procès de Nuremberg. Donc il y a ce rapport ambivalent, on crée un pays qui est mieux sur certains côtés, on va dire mieux comme ça, sur des bases, disons, politiques et un projet plus sain et plus humaniste. Et en même temps, on voit que, du point de vue de l'économie et de la vie quotidienne, c'est aussi plus compliqué. Et après, il y a tous les rapports de la RDA avec le reste du monde, puisque la RDA, c'est un morceau du bloc de l'Est. Donc c'est vraiment un épicentre de toute la guerre froide. C'est là que la guerre froide, elle se matérialise le mieux, entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, presque plus encore qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On est vraiment là, un point de rencontre entre les deux blocs. Et après, il y a aussi dans le livre toutes les relations très intéressantes dans le cadre de la décolonisation, notamment avec tous les mouvements décoloniaux en Afrique, avec le Mozambique, par exemple, avec Cuba, avec les Vietnamiens, etc., qui formaient d'ailleurs même des communautés en RDA, des communautés de travailleurs ou de militants venus se former, etc., voire de combattants, des fois aussi. Donc, un pays ouvert, très ouvert sur le monde. Il parle aussi des compétitions sportives dans lesquelles il y avait deux équipes d'Allemagne, et avec les choses que cela pouvait apporter aussi. Donc, une histoire globale, elle est conçue dans ce sens-là, c'est-à-dire toutes les connexions, toutes les échelles et toutes les temporalités. C'est un petit peu ça le projet. C'est pour ça qu'il est gros, le livre aussi.
D'ailleurs. Oui. Voilà. C'est un joli pavé.
Ça, pour ça, oui.
Et est-ce que l'histoire de la RDA, entre les différents historiens, entre Nicolas Hoffenstadt et d'autres historiens, qu'ils soient français, allemands ou d'autres nationalités, est-ce que ça fait encore débat ? Est-ce qu'il y a encore des sujets, que ce soit sur des détails ? Est-ce qu'il y a encore des désaccords, des contradictions ?
Alors, oui, bien sûr, parce que les historiens, en principe, ils sont honnêtes intellectuellement, mais un historien qui dirait « je suis un historien 100% objectif », c'est de cela qu'il faut se méfier le plus, à la limite, parce que être un historien, disons, honnête intellectuellement et intègre, ça consiste plutôt à dire je suis au clair avec mes partis pris, de citoyen, d'être humain, etc., plutôt que je n'ai aucun parti pris, parce que quelqu'un qui a aucun parti pris, en fait, ça n'existe pas. Donc, selon les partis pris, les gens vont étudier avec tel ou tel aspect. Alors l'approche de Nicolas Hoffenstadt, qui part vraiment de la base, du terrain, des usines détruites, des entrepôts désaffectés, des magasins abandonnés, etc., il part vraiment de la vie quotidienne, de la vie ordinaire des gens. Si vous travaillez davantage sur l'histoire politique, tous les congrès politiques des dirigeants de la RDA, etc., vous fabriquez pas la même image. Si vous focalisez l'histoire de la RDA sur le fonctionnement de la Stasi, la police politique, dont évidemment il parle aussi dans le livre, vous pouvez produire l'image d'un État qui est uniquement un État policier et très autoritaire, etc. Et en fait, Ça dépend là où on place, là où on place le.
Mais tout dépend de l'angle duquel voilà. On décide de partir
et donc et ce qu'il a essayé de faire là, c'est justement de faire un peu le tour de tous les angles possibles dans une réflexion critique. Et ça rend notamment la fin du bouquin très intéressante parce qu'on sait qu'aujourd'hui les régions d'ex-Allemagne de l'Est sont pour plusieurs d'entre elles des régions où l'extrême droite est électoralement très très forte, ce qui est une vraie question et un vrai problème partout, mais d'autant plus dans l'histoire allemande, la résurgence de l'extrême droite, ça a quand même une signification particulière. Et avec son approche globale comme ça, il réussit à faire le tour en fait des différentes analyses, c'est-à-dire il montre qu'il y a des analyses un petit peu, on va dire, Allemagne de l'Ouest, qui sont toujours en surplomb, en condescendance et un peu en mépris encore aujourd'hui de l'Allemagne de l'Est et de ce qu'elle a été, et donc de ses habitants. Pour certains analystes, l'extrême droite, elle a du succès en Allemagne de l'Est, parce qu'en gros, les Allemands de l'Est, ils n'ont jamais été acclimatés à la démocratie. Ils n'ont jamais vécu en proximité avec de la mixité ethnique ou culturelle, etc. Ce qui d'ailleurs n'était pas vrai. Et donc, en fait, c'est un peu parce qu'ils sont un peu arriérés, en gros, qu'ils sont d'extrême droite. Inversement, si on se place davantage du point de vue des Allemands de l'Est eux-mêmes, et là, à aucun moment, il s'agit de les excuser, de les justifier ou quoi que ce soit. C'est de l'analyse distanciée, hein, c'est-à-dire on cherche à comprendre, on ne cherche pas à juger. Mais du point de vue des Allemands de l'Est, ils avaient dans leur vie en Allemagne de l'Est il n'y avait pas de chômage, c'est-à-dire tout le monde avait un emploi assuré, un logement assuré, bon, qui était ce qu'il était, mais ils pouvaient être considérés comme des héros du travail, comme des bons ouvriers, etc. Les usines ferment, les logements sont abandonnés ou plus entretenus. Bref, il y a un sentiment de déclassement terrible. Et en gros, on leur dit tout ce pourquoi vous avez travaillé pendant des années et des années, tout ça, ça valait rien du tout. On va tout balayer et vous allez vivre comme nous, on vous dit, les Allemands de l'Ouest. Et de fait, le chômage est très haut, le niveau de vie avec l'Ouest est toujours très, très différent. Et donc là, vous trouvez facilement les ressorts d'une adhésion à l'extrême droite. D'autant que le pays était censé être le pays du socialisme, des idées de gauche, et que de fait ça a échoué. Alors qu'est-ce qui reste d'autre ? Une fois que la phase d'espoir dans les politiciens, on va dire centre-droit, centre-gauche, a été déçue, et ben, en fait les gens se tournent vers l'extrême droite. Mais vous voyez comment on peut le voir comme s'ils étaient un petit peu abrutis, en quelque sorte, ou bien, de leur point de vue à eux, dû de l'énorme déclassement très brutal qu'ils ont subi et qui les amène vers ça. Donc en fait, en réfléchissant sur la RDA aujourd'hui et la place qu'a l'extrême droite dans ce pays, on fait plein de connexions avec d'autres pays, la France par exemple. On peut vraiment s'amener une lumière comparative vraiment, vraiment très intéressante en fait.
Oui, que ce soit la France ou d'autres pays européens, oui. Même à notre époque, qui malheureusement voit une recrudescence des partis extrémistes, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, mais notamment l'extrême droite,
oui.
Parce qu'effectivement, les citoyens ont un sentiment de déclassement. Ce qui les amène à voter pour des partis populistes et à se dire on n'a jamais voté pour eux, pourquoi pas, parce qu'ils ont été déçus par la gauche, par la droite, donc du coup ils vont encore plus loin et c'est dramatique, mais malheureusement ça amène à ce que les partis d'extrême droite ensuite soient au pouvoir.
Voilà, et
c'est
ça,
déjà le cas en Italie par exemple avec Giorgia Meloni.
Tout à fait, et ça repose toujours sur des bases... Enfin, l'adhésion à l'extrême droite repose toujours, et même moi je dirais à titre personnel avant tout, sur des bases sociales. C'est-à-dire que quand les gens vous détruisez les fondements de leur vie individuelle, leur vie de travailleur, leur vie sociale, etc., que vous détruisez tout ça, forcément ils vont se tourner, enfin forcément. On peut comprendre qu'ils se tournent vers des idéologies hostiles, d'exclusion, etc., par contre-coup. Et quand je dis bien, on peut comprendre, sans dire on peut le justifier, puisque voilà, la démarche de l'historien, c'est avant tout de chercher à comprendre. C'est pas de distribuer des bons et des mauvais points. Voilà, c'est ça.
Eh bien, Histoire globale de la RDA, écrit par Nicolas Offenstadt, que vous pourrez rencontrer, donc comme évoqué en introduction, le samedi 14 mars à la médiathèque de Millau, et vous pourrez discuter de ce sujet-là avec lui. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui hésiteraient encore à se déplacer ?
Donc ça sera bien le samedi 14 mars à 18h dans l'auditorium de la médiathèque de Millau, où on sera très bien accueilli par le personnel de la médiathèque de Millau et notamment Romain Merichkaï. Radio Larzac est partenaire aussi de cet événement, ainsi que la librairie Syllab. Voilà. La présentation, elle se fera de façon dynamique, c'est-à-dire que il y aura une brève présentation de l'auteur que je ferai en trois minutes, et ensuite il présentera son ouvrage pendant une vingtaine de minutes, puis ensuite ça sera les libraires de la librairie Syllab qui prendront le relais pour un échange de questions, et puis après un échange avec le public. Voilà, donc c'est pas une conférence d'une heure 45, un petit peu,
c'est vraiment un échange avec le public.
On a essayé de le faire de la façon la plus dynamique possible, et en suivant on pourra prendre un verre en écoutant une playlist de rock de RDA, voilà, que un collaborateur de Radio Larzac qui s'appelle ArcelorMittal, qui n'a rien du tout à voir avec moi, bien sûr, doit préparer d'ici là. Il ne l'a pas fait encore, d'après les nouvelles que j'ai, mais il va s'en occuper. Et voilà, donc un petit apéro avec du rock de RDA en suivant, on n'en entend pas tous les jours. Donc,
eh voilà. Si vous aimez la musique et la RDA, n'hésitez pas à vous rendre à, non pas cette conférence, mais cet échange, ce débat suivi d'un apéritif avec de la musique. Merci beaucoup, François, d'être venu pour cet échange.
Merci beaucoup à toi et à Radio Larzac.
Voilà. Et n'oubliez pas évidemment que cet épisode de Supplément d'Agenda est disponible à volonté, sans modération, en podcast sur notre site internet radiolarzac.org. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Supplément d'Agenda. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
De l'info, de l'actu, des rencontres, tout ça au gré de l'actualité locale, c'était votre supplément d'agenda sur Radio Larzac.